tout de suite sur France Culture, du lundi au jeudi, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, l'heure du documentaire. En canoë, en pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue à la pêche à pied, en escalade pour les moissons, en bain de soleil, en tricotant, tranquille dans la ville ou perdu dans la foule, cette heure est pour vous. 53 minutes choisies dans 10 années de Sur les docks. Un thème et 4 épisodes pour faire vagabonder ses pensées et prendre les chemins de traverse. Cette semaine, passeur de réel. Et aujourd'hui, Pedro Costa, un documentaire de Johanna Bedeau réalisé par Diffy Mariani. La caméra est un prétexte, comme le micro. C'est une occasion, une raison qui permet à la curiosité de ne pas être vaine. C'est aussi un moteur qui nous pousse vers les autres, vers ceux qu'on ne sait pas comment approcher, ceux qu'on admire, ceux qui nous intriguent et ceux qui nous fascinent. Mais c'est aussi un élan, une perche pour nous aider à franchir la distance qui nous sépare de ce que l'on craint, de ce qui nous révolte et de ceux qui sont à la marge. C'est un moyen d'aller là où on n'est pas attendu pour filmer ou enregistrer ce qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qu'on préfère parfois ne pas voir. C'est l'accessoire pour se faire accepter, pour justifier sa place et peut-être parfois, rarement, très rarement, faire mouche et réveiller quelques consciences endormies, à commencer par la sienne. Aujourd'hui, premier volet, faites connaissance avec Pedro Costa.
Dans l'avant-jeunesse, il y a une lettre, la lettre, un poème, Niakrechu. Niakrechu, ça veut dire mon amour en cap-verdien, cap-verdien. Et en fait, c'était dans Casa de Lava, ce poème. Et en fait, c'est une adaptation que Pedro a fait d'un poème que Robert Desnos, quand il était déporté, a écrit à Yuki, qui était la femme qu'il aimait à ce moment-là, d'ailleurs la dernière femme qu'il a aimée, parce qu'il n'en est pas sorti vivant des camps. C'est l'histoire, voilà, mon amour. J'aurais tant voulu t'offrir 100 000 cigarettes, une douzaine de robes des plus modernes, une automobile, la petite maison de lave dont tu rêvais tant, un bouquet de fleurs à 4 sous. Mais avant toute autre chose, bois une bouteille de bon vin et pense à moi.
Mi apprecio, mi amor. Un non si incontro con la nostra villa mal finita per lo meno mal 30 anni. Per la mia parte torno mai nuovo, posso dire forse. Io gostavo di te offrire sempre cigarro, una dose di vestito che era mai moderno, un automobile, una casina di lava che tanto queria, un romaletto di flore di 4 tonne. Mas antes de tudo coisa, bebe garrafa no vinho do bom, pensa em mim.
Passeur de réel, Pedro Costa, un documentaire de Johanna Bedeau et Diffy Mariani. Ce cinéaste portugais commence par abandonner ses études d'histoire avant de s'inscrire à l'école de cinéma de Lisbonne, un peu par hasard. Pedro Costa travaille ensuite comme assistant auprès de Wim Wenders, Manuel de Oliveira ou encore Raoul Ruiz, avant de réaliser son premier long métrage, Le Sang, en 1989. En quelques films, il s'affirme comme un auteur particulièrement exigeant et impose son esthétique radicale. Avec Osso, son troisième long-métrage, puis La Chambre de Wanda en 2000, ou plus récemment en avant-jeunesse, il nous plonge dans Fontenhas, un quartier cap-verdien en banlieue de Lisbonne. Un projet qui naît d'un film précédent qui lui-même était né du film d'avant. Le désir simple d'un cinéaste qui construit un passé en commun avec les habitants de ce bidonville, Fontenhas. Être présent, partager et accompagner les habitants du quartier. Rien que pour faire des choses, les dire et les filmer. Telle est la démarche de Pedro Costa. Dans ce paysage cinématographique, des personnages apparaissent comme Ventura, ouvrier capverdien à la retraite et personnage central dans l'avant-jeunesse. D'autres reviennent comme Wanda Duarte, à qui il consacrera entièrement son film, Dans la chambre de Wanda. Pedro Costa va la filmer pendant toute une année avant d'élargir son film à tout le quartier en phase de démolition. L'intention du cinéaste est de montrer ce que l'on ne regarde jamais. Ses commentaires sur sa façon d'aborder la réalisation sont simples. Il faut se risquer dans chaque plan, risquer sa vie dans chaque plan, chaque moment, chaque intonation d'un acteur. Sinon, le cinéma ne sert à rien. Sa conception du cinéma, Dominique Auvray la connaît bien. Elle a monté plusieurs de ses films et nous accueille dans son appartement parisien.
Bonjour. J'ai votre sourire et Casa de Lava. Je l'ai prêté.
Je l'ai dans mon sac. Ah oui, alors celui-là...
J'ai votre sourire enfoui.
Ça, c'est un film que vous avez monté, là, oui. Pedro Costa.
Mais j'ai monté Casa de Lava, La Chambre de Vanda et j'ai votre sourire enfoui.
Et ça, c'est en quelle année que vous avez monté Casa de Lava?
En 93. C'est quand j'ai rencontré Pedro. Je connaissais bien Paolo Branco. J'ai traversé le jardin de Luxembourg à 8h du matin parce que j'habitais sur le jardin de Luxembourg et il m'a dit ça va, je dis ah j'ai pas de travail, il me dit ah j'ai du travail pour toi, je viens on vient de finir le tournage du futur Manuel de Oliveira portugais, il me dit je suis sûre, j'aurais pas pensé à toi mais je suis sûre vous allez très bien vous entendre. Et donc l'après-midi j'étais dans son bureau et une semaine après Pedro arrivait à Paris et on regardait les rushs. Voilà.
Et la chambre de Vanda, vous l'avez, vous ?
Mais en cassette.
Oui. Si, il est mort, le soleil.
Foi pra aqui.
Só tem seis mais com manteiga.
Tá mal, se é lá.
Não tem?
Eu não fui lavar.
Comment ça s'est passé le montage justement de la chambre de Vanda, vous vous en souvenez?
Ouais, ça s'est passé, ça a pris beaucoup de temps. C'était très long. Attends, je vais baisser un peu. D'abord, je suis arrivée à Lisbonne, je crois, au mois de mars 99 pour regarder les rushs. Et ça a pris mars, avril, mai. Parce qu'il y avait plus de 140 heures de rush à ce moment-là. 3 mois. On a regardé les rushs pendant 3 mois. Je passe 6 ou 7 heures par jour. Moi, j'écrivais tout. Pedro, à ce moment-là, je parlais espagnol, mais je ne parle pas portugais. Maintenant, je parle portugais. Et donc, j'avais des petits cahiers noirs, tous pareils, que j'achetais, de très jolis petits cahiers portugais. Et donc, je prenais des time codes et ils me traduisaient tout au fur et à mesure, ce qu'elles disaient. Les filles et la mère et donc voilà, tout ça, ça a pris 3 mois. Et puis, mais Pedro voulait continuer à filmer. Donc je suis rentrée à Paris et il m'a dit pars un mois et puis ensuite on reprendra le montage. Donc je suis partie et au mois de septembre, j'avais toujours pas de nouvelles. Alors j'ai dit mais putain, qu'est-ce que tu fous? Elle me dit ah non, viens. Donc je suis revenue au mois de septembre ou octobre, je me souviens plus très bien. Donc j'ai passé le réveillon de 2000 d'ailleurs au Portugal. Donc on a numérisé un certain nombre d'heures, je sais plus, de l'ordre de 60 ou 80 j'imagine. Parce qu'à un moment on avait quand même 230 heures de rush, je crois. Ça demande beaucoup d'organisation, ça demande beaucoup de papier pour noter exactement ce qu'on a, avoir des bins bien rangés, Vanda dans sa chambre, Vanda avec Zita, Vanda avec sa mère, et puis ensuite Vanda avec l'abcé, pas avec l'abcé, avec tel pull, parce qu'après, faut pas qu'elle sorte d'une pièce avec un pull rouge et alors qu'elle avait un pull vert avant, parce que sinon il n'y a pas de continuité, enfin sinon on peut pas croire à l'histoire. Et donc il faut bien organiser, puis en fait c'est une façon de mémoriser la matière, de tout bien organiser, et puis ensuite Par exemple, quand Vanda est malade et commence à dégueuler, on choisissait le plan de 20 minutes qu'on préférait ou d'une demi-heure. Puis petit à petit, comme ça, on a eu des plans préférés. Et puis on a monté énormément de choses parce que le premier bout à bout faisait 7 heures. Enfin, le premier montage qu'on aimait bien faisait 7 heures. Et puis ensuite, il faut trouver le film, par quoi on commence, comment... Et donc, cette première scène avec le personnage de Pango qui se douche dans cette maison détruite, et ça installe bien le fait que c'est un quartier qui est en train d'être démoli. Parce que c'est une plaie, c'est considéré comme une peste. Et donc, il faut renvoyer la peste plus loin de Lisbonne. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, en les envoyant dans des cités. Dans des cités qui sont plus loin que Fontaine. Et puis, on a terminé à la fin du mois de mars ou à la fin du mois d'avril. Donc, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, 6 ou 7 mois.
Fuma para tirar a ressaca primeiro. Quer comer todo? Hã? Não. Então não vamos todo. Cuidado, pá!
Une salle de montage, c'est un petit espace. Le montage, c'est quelque chose de très intime où quand même, le monteur voit tout ce que le film a réussi, mais voit également tout ce que le film a raté. Donc, il faut aussi avoir une respiration commune, c'est-à-dire avoir un sentiment commun de la longueur des choses, être ému, faut partager. Le montage, c'est un partage, c'est une collaboration, vraiment qui est de l'ordre de l'intime, je trouve. Et donc tout ça, il devait la trouver avec moi puisqu'il me proposait toujours qu'on travaille ensemble, et moi je l'ai trouvé avec lui puisque je continue à travailler avec lui. Mais avec Pedro, on s'est toujours plutôt marré. Parfois c'est sinistre quand il fait la tête, ou parfois c'est très très gai. C'est quelqu'un qui a beaucoup le sens de l'humour. Mais on parle pas beaucoup avec Pedro. On essaye, on réfléchit, on sait pas, y a pas d'idée. L'idée, elle préexiste au moment du tournage pour lui, mais il me dit rien. Voilà, y a les rushs, on les regarde, et puis moi je réagis. Après, on commence à mettre des mots sur les choses quand il s'agit de vraiment d'avancer vraiment la construction, parce que un ordre c'est comme on fait coexister des séquences. Le montage, c'est ça, faire coexister les séquences. Elles ont un impact les unes sur les autres, c'est-à-dire qu'on peut dire cette séquence là c'est une séquence joyeuse, cette séquence là elle sert à ça, mais le tout c'est d'arriver à avoir un sous-film qui est le récit qui fonctionne. Et c'est vrai que Pedro a une façon, je trouve, très tendre, très délicate, très sentimentale aussi, de raconter les histoires, et ça me plaît beaucoup. En même temps, il y a beaucoup de sensualité dans ses films, et moi, c'est que des choses que j'aime. Parce que il faut être dans un rythme de l'histoire et de la scène qui se déroule, et un plan, des choses dans lesquelles il ne se passe pas grand-chose, et savoir faire durer le plan à la juste longueur, c'est assez difficile. Et je pense que c'est là où,
où il faut qu'un réalisateur et un monteur aient cette respiration commune qui fait qu'on a envie, qu'on dit ah, un tout petit peu long, un tout petit peu court.
Alors donc vous êtes ingénieur du son, c'est ça?
Mon nom est Henri Maïkoff, je suis ingénieur du son.
Sur quel film vous avez travaillé avec Pedro Costa?
Premier film Casa de Lava, donc un film au Cap-Vert en grande partie, une deuxième partie qui est tournée plus tard à Lisbonne. Donc une fiction, on peut dire traditionnelle, avec une équipe, c'était en 35, équipe complète, si je puis dire. Donc je dis ça par rapport à l'évolution de l'équipe actuelle, c'est-à-dire ils travaillent à deux actuellement. Et après, Osso, c'est un deuxième projet qui était à Lisbonne uniquement, dans les bidonvilles de Fontainhas.
Quelle implication elles sont dans les films de Pedro Costa?
Ça dépend des films, en fait. Notre collaboration a énormément changé. On a travaillé deux fois ensemble. Et en fait, il m'a reproposé de travailler sur Osos, qui était compliqué dans la mesure où c'était des corps exigus, dans des conditions un peu comme ici, c'est-à-dire tout le temps un champ sonore qui envahit, qui dépasse de loin le cadre visuel. Fontainhas étant un bidonville, c'est-à-dire construit avec des matériaux extrêmement rudimentaires, de la brique, du voisinage très proche, des télévisions partout, des ruelles qui résonnent, une vitalité du quartier qu'on peut pas nier, et on va pas commencer à crier silence dans tous les coins parce que de toute façon on l'aura pas. Donc évidemment, on essaie d'assurer ce qu'on appelle le son direct, le son du plan. C'est-à-dire d'abord une vraisemblance avec ce qu'on voit, c'est-à-dire essayer d'extirper les voix du brouhaha ou en plus Pedro aime bien un côté très intériorisé, c'est-à-dire il aime toujours que les gens parlent extrêmement bas, voire chuchoter, voire marmonner, limite incompréhensible, c'est à demi-mot, c'est un lambeau de phrase par-ci, on n'a pas vraiment compris, est-ce que c'est ça vraiment l'histoire ou pas, donc c'est aussi une espèce de retranchement de la clarté de ce que peut être un dialogue. On lutte énormément avec, évidemment, avec cette contrainte qui pose Maïch Baïch. Chaque fois qu'il l'entendait, parce qu'il a un retour casque, il comprenait clairement, donc il voulait que les acteurs parlent moins fort. Donc évidemment, la perche est très vite secondée avec des micros HF. En tant qu'ingénieur de son, on essaye de sortir le dialogue, comme on dit, on sort le dialogue de la purée. Évidemment, du coup, il l'entend trop précisément, donc il redemande de baisser une couche. Donc, on navigue un peu dans ces équilibres-là. Le grand contraire serait dans les films portugais, c'est Manuel de Oliveira, où c'est extrêmement bavard, un dialogue extrêmement écrit, littéraire, où tout est dit, et à la limite, les gens sont juste assis pour, disons, l'action et pratiquement le verbe. Alors que chez Pedro, l'action est en pointillé, c'est des situations qu'on commence à sentir, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment de l'action qu'on voit, c'est une bribe de ça, donc c'est plein d'histoires comme ça, un peu souterraines, qui apparaissent par petites touches, quoi. Évidemment, dans ces tournages-là, on essaye de surfer avec les événements sonores, c'est-à-dire de capter ce qu'on peut. Donc on lutte pour la parole, et en dehors, évidemment, on va faire une tonne d'ambiance pour réhabiller le film. Chose qui est justement très réussie sur le film de Osso, c'est-à-dire que les dimensions et les strates sonores explosent complètement par rapport à la restriction du cadre de l'image. C'est-à-dire on est dans des décors tellement petits qu'il n'y a jamais possibilité de recul. C'est l'architecture qui fait beaucoup le cadre. C'est-à-dire qu'il y a des pans de murs qui bouchent la moitié du cadre. On filme à travers une ouverture de porte. Il y a les ruelles qui sont tellement sinueuses. Donc on voit apparaître, disparaître les gens, même s'ils avancent droit. Donc il n'y a jamais de grand espace dans Ossos. Et ça commence sur un plan de Zita, un gros plan. Il ne se passe pas grand-chose, mais on entend, petit à petit, on se rend compte, bien, on entend un quartier derrière, un ruissellement de pluie et tout ça. Donc c'est comme si les murs étaient un peu transparents. Et dans tout le film, cette dimension de hors-champ sonore, de vie en parallèle, qui ne rentrera pas dans le champ, mais qui est là, est très bien restitué.
Vous expliquer un petit peu comment vous avez été séduit par le cinéma de Pedro Costa?
Bon, c'était d'abord un petit peu accidentel. C'était une époque où je faisais des chroniques pour les cahiers du cinéma, et au fond je cherchais un petit peu dans les nouveautés des choses qui soient un petit peu
Jacques Rancière,
qui soient un peu excitantes, quoi. Et donc moi, il se trouve que j'avais vu à ce moment-là Ossos, donc qui est le premier film un petit peu de la trilogie de Pedro Costa, et bon, un film extrêmement dur. Je connaissais pas Pedro Costa du tout. Je suis tombé dessus comme ça, bon, parmi les choses qui sortaient. Je me suis dit, bon, je vais aller voir ça, quoi. Et puis bon, j'ai quand même été effectivement frappé par cette structure extrêmement dure. D'une part, bon, là, cet univers qui était l'univers, donc, disons, du bidonville de Fontaine, à côté de, dans la banlieue de Lisbonne, cette espèce de, bon, et disons, j'avais particulièrement été comme ça, un peu interloqué par ces scènes d'intérieur, notamment cette scène, une espèce de suicide manqué, suicide non abouti, c'est-à-dire, où finalement, la mère entraîne la bouteille de gaz pour, ben, disons, pour liquider un petit peu tout le monde, toute la famille. Et bon, évidemment, ce qui m'est frappé dans Ossos, c'était comme une espèce de disparition de ce monde, c'est-à-dire un monde complètement clos, où, au fond, bon, il y avait la misère, en même temps, plus aucun des signifiants de la lutte des classes. On avait ce sentiment à la fois d'un monde, disons, d'après, finalement, toutes les grandes formes de la protestation collective, quoi. Et en même temps, bon, le sentiment que, Pedro Costa n'était pas un esthète comme ça, nous donnant à voir un monde à la dérive ou un monde post-moderne, où les grands signifiants, les grands récits seraient morts. Donc il y avait cette espèce un petit peu aussi d'énigme, en quelque sorte, de savoir qu'est-ce que c'était que cette politique d'un auteur qui par ailleurs, disons, composait malgré tout une espèce de tableau, enfin, ou de décor absolument somptueux, c'est-à-dire le fait que, bon, la moindre tache de bleu, de vert, etc., dans cet univers complètement abandonné, prenait une espèce de splendeur visuelle incroyable, bon, sans qu'on puisse en même temps dire, bon, c'est une esthétisation de la misère, c'est-à-dire il n'y a aucun pittoresque qu'une esthétisation de la misère. Donc au fond, il y avait un petit peu comme les éléments d'une énigme, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette visite à une sorte de sous-prolétariat sans avenir, sans représentant, sans lutte, cette manière de s'installer dans une espèce de splendeur visuelle propre à cet univers. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour un cinéaste? Donc voilà, c'était un petit peu le point de départ de mon interrogation sur Pedro Costa.
Achas que ele já vê bem? Ele já te conhece, Tina. Anda a mostrar ao menino.
J'avais été frappé aussi par ce passage que j'ai, commenté un peu déjà par écrit, quoi. Où il y a les squatteurs qui vont partir, et puis l'un des squatteurs donc qui est en train de gratter des taches, de gratter avec son couteau une tache sur la table, quoi. Et bon, les copains lui disent mais c'est quoi tu vraiment bon bah disons malgré tout tu nous énerves cette table on la lâche et ainsi de suite, t'as pas besoin de se fatiguer, quoi. Bon, et il continue si vous voulez comme une espèce de volonté de mettre de l'ordre, de mettre de l'harmonie en quelque sorte sur dans cet univers qui est un univers à l'abandon et qui va être livré au bulldozer, quoi. Et je trouvais qu'à ce moment-là il y avait un rapport qui était vraiment assez fort entre la manière dont ces gens essayent un petit peu de mettre un peu d'ordre dans leur vie ou d'introduire un peu de compréhension, d'intelligence de leur situation dans leurs paroles, quoi. Et puis au fond là, le travail même du cinéaste, c'est-à-dire que le cinéaste, il est un petit peu comme, Pedro Costa, il est un petit peu comme, le squatteur qui gratte sa table, etc. Bon, ça sert peut-être à rien, quoi. Bon, il fait des films, bon, il n'y a pas grand monde qui les voit. Bon, on lui a refusé l'avance sur recette parce qu'on a dit c'est un film de festival. Il n'y a pas besoin de l'aider à aller en salle puisque c'est un film de festival. Donc, il y a une idée, je crois, qui est très forte chez Pedro Costa, mais avec une réalisation difficile, quoi. C'est l'idée de. Font que l'art doit être une forme d'échange. Et bon, on voit bien que son idéal, c'est de faire aussi un cinéma un petit peu qui soit aussi cette espèce de restitution. C'est-à-dire, justement, on va pas comme un prédateur prendre ses images, sa parole à l'autre pour après, la projeter ailleurs, ailleurs pour les esthètes, quoi. Mais où il s'agit de pouvoir rendre à une population sa parole, l'image de son monde. Et bon, effectivement, Pedro Costa projette un petit peu régulièrement pour les gens qui ont participé à ses films. Bon, il y a effectivement malgré tout une grande difficulté, je dirais comme ça, à pouvoir en quelque sorte reproduire dans un type de société comme la nôtre cette sorte de circulation encore de la parole, de l'image, de la musique. C'est-à-dire qu'on est, malgré tout, il bute sur le fait que le film se produit dans une société marchande où le film entre dans un réseau de production, un réseau financier, un réseau institutionnel avec toutes les conséquences qui s'en tirent.
Pedro Costa, comment vous est venue l'idée de faire du cinéma ?
C'était un peu un choix entre faire musique ou histoire. Moi, j'étais étudiant d'histoire et j'ai fini les études. Et après, je pensais que j'allais faire un peu de musique. Simple, hein, rock, pas des choses sérieuses. Et finalement, non. J'ai par hasard passé un entretien chez une école de cinéma avec un copain. On avait vu ça dans une petite annonce dans un journal. Et voilà. J'ai fait ça. J'ai fait l'école par hasard. Et après, j'ai commencé, comme tout le monde, à travailler assistant, réalisateur, assistant production, tout ça. Les années d'assistant étaient un cauchemar. Parce qu'en gros, je voyais un monde qui ne me plaisait pas du tout, qui était le monde du cinéma. C'est-à-dire, je voyais des réalisateurs qui paniquaient, qui souffraient, qui étaient tout le temps nerveux, qui pleuraient. Et le rôle des assistants, c'est un peu ça. C'est aussi calmer le réalisateur. C'est aller parler avec le producteur, négocier des choses, tout ça. Mais ça ne me plaisait pas du tout. Enfin, je gagnais bien ma vie. Beaucoup mieux que maintenant. Mais ça ne me plaisait pas parce que c'est ce que je pense aujourd'hui. Je l'ai vu à ce moment-là. Le monde du cinéma est un monde qui est peut-être un des mondes des mondes du travail qui imite le mieux les pires choses de la société. enfin, des choses de pouvoir, d'argent, d'hypocrisie, de méchanceté entre les gens. C'est un tournage, c'est un truc infernal. C'est un, enfin, ce que j'ai vu. Hein. Donc ça m'a fait très peur parce que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que c'est cette vie que je veux? C'est con d'avoir choisi ça. Heureusement, évidemment, tout le monde trouve un peu son coin, son chemin. Moi, il m'a fallu quand même 6-7 ans pour trouver une autre façon de... Enfin, de ne pas faire les mêmes erreurs que j'avais vues dans cette espèce de travail qui n'était pas vraiment un travail quand j'étais assistant. C'était faire un peu de l'hystérie collective. Un peu.
Donc d'abord, il y a Le Sang, votre premier long-métrage, en 90, c'est ça?
Oui.
Ensuite, il y a Casa de Lava en 94, puis il y a Osos en 97, votre troisième long-métrage, qui est d'une très très grande beauté, sur le destin mouvementé d'un nourrisson dans le quartier de Fontenas à Lisbonne. Puis ensuite, il y a La Chambre de Wanda en 2000, qui est un film documentaire immense, qui est entièrement consacré à Wanda Duarte. Et puis ensuite, on a Ogi, votre sourire enfoui, le documentaire où l'occasion vous est donnée justement de rendre hommage au couple de cinéastes Daniel Huette et Jean-Marie Straub. Et puis ensuite, le Vie en avant jeunesse en 2006, qui était en sélection officielle au Festival de Cannes en 2006, sorti le 13 février 2008 en France. Alors dans ce film, on retrouve Wanda, les habitants du quartier dont Ventura, un ouvrier capverdien qui est à la retraite dans la banlieue de Lisbonne. Comment commence votre aventure dans ce quartier de Fontenas?
C'est très simple. C'est que ce film Casa de Lava, que j'ai donc 94, quoi. Ce film-là est tourné au Cap-Vert. Et à la fin du tournage au Cap-Vert, on était logé dans un village, un petit village. Et à la fin, dernier jour de tournage, nous, on partait. Et les gens nous ont donné des lettres pour les fils, les maris, les cousins immigrés à Lisbonne. On allait partir à Lisbonne et donc ils nous ont donné des messages, des cadeaux, du tabac, du café pour les amis, pour les familiers. Et donc, quand je suis arrivé à Lisbonne, j'ai cherché un peu ce quartier, qui est un peu au nord de Lisbonne, quartier africain et quartier surtout capverdien. Et donc, comme je dis souvent, j'ai fait un peu le facteur. Et j'ai cherché monsieur un tel et madame. Et donc, je passais les lettres, je passais le message, je disais, votre fils va bien, on a fait un film. Et donc, comme je parlais un tout petit peu créole, capverdien, j'étais très vite, très vite accepté. On m'invitait tout le temps pour manger, pour venir à une fête, un mariage. Et j'ai commencé à passer, à rester là au quartier, à traîner, pas juste à parler, voir, boire. Et comme ça, tout un jour, sûrement, comme ça, est venue l'idée de faire un film dans le quartier. Chose que j'ai fait avec ce Osos. Voilà. Mais là encore, c'était encore un tournage très classique.
Et là, il y a des personnages qui apparaissent, comme dans En Avant Jeunesse. Mm-hmm. Il y a d'autres qui partent, d'autres qui restent comme Wanda. Quelle est votre intention? Est-ce que c'est de montrer aux gens tout simplement que ce quartier existe? Est-ce que c'est montrer ceux que l'on ne regarde jamais ou que l'on ne veut pas voir?
Au début, sûrement, quand j'ai fait le premier film, il y avait quelque chose de ça aussi, sûrement, de montrer des misères ou des conditions de vie misérables ou difficiles. C'était pas ça, c'était montrer un monde... Un monde, oui. Je comme ça, un groupe de gens, un groupe de maisons même, qui était pas connu, qui était secrète, qui c'est un ghetto. Et comme tous les ghettos ont ce double aspect de, on les connaît pas, mais ils se laissent pas connaître non plus. C'est-à-dire, il y a, on a très peur d'y aller, mais eux, les gens qui habitent, ont aussi très peur de se montrer, de sortir. C'est vrai pour tous les ghettos, enfin pour toutes les sociétés secrètes, un peu comme ça. Et donc, c'était le côté société secrète, des gens un peu des souterrains, ou, qui, que je voulais un peu révéler, parce que sûrement ça s'approchait de choses vues et que j'ai aimées au cinéma. Donc c'était pas du tout une approche de documentaire ou de quelqu'un qui dit on va montrer ce que vous subissez là, cette vie, tout ça. Non, c'était plutôt un choc, un peu, choc vraiment, un choc pour moi. plastique, si vous voulez. C'était les couleurs, c'était des sensations, c'était un choc sensuel, d'abord. Et bien sûr, humain. Donc c'était d'une part les gens, quelque chose, un mystère qu'il y avait là, et d'autre part ce lieu même, qui était un lieu de, pour moi, de très, très, presque d'aventure, si on peut dire.
Est-ce qu'on peut dire tout simplement que votre projet, c'est tout simplement agir?
Ah, exactement, voilà. Vous l'avez dit très très bien. Personne jamais dit ça. Oui, oui, c'est exactement ce que j'essaye de dire aux gens. Moi, des choses que j'ai en commun avec, par exemple, des peintres ou des cinéastes ou des musiciens, c'est agir. Oui, c'est vraiment ça. C'est bête, c'est simple, mais c'est absolument vrai. C'est pas autre chose que agir. Oui. Et on va pas dire de bêtises en disant que on va dénoncer ou montrer, ou on va faire ça et ça et ça, parce qu'on le fait jamais, on le fait mal. Ou... Donc c'est mieux de faire correctement un travail de cinéaste. Sur l'espace, le temps, les couleurs, les contrastes, les sensibilités, je trouve ça plus important, et le faire bien, que commencer à mettre le poivre et sel de la politique, parce que ça, la politique est dans les couleurs et dans les sentiments. Mais je trouve très bien cette distance qui existe entre moi et le quartier, certaines gens, et même la distance qui existe entre moi et les gens que j'aime beaucoup. Les jours où on se bagarre, moi et Vanda, par exemple, elle me dit toujours, ne pense pas une seconde que tu vas me connaître. Alors, on a déjà travaillé beaucoup ensemble, mais c'est vrai, absolument vrai, et je sais ce qu'elle veut dire. Ne pense pas une seule seconde que tu sais ce que c'est ma vie, toi qui penses me filmer, ne pense pas une seconde comment je me sens là maintenant, quel est mon sentiment, ni que tu vas connaître ou t'immerger dans ce monde-là qui est le mien, parce que toi, tu n'es pas d'ici.
Justement, après, dans la chambre de Vanda, on va redire un peu la même chose, mais pourquoi refaire un film dans ce quartier de Fontenay? Est-ce qu'on peut imaginer que votre travail, c'est un travail, je sais pas, d'archives, un travail de mémoire?
Oui, c'est ce qu'on me demande, là, mes collègues aussi. C'est pourquoi tu changes pas, pourquoi tu... t'en vas pas, pourquoi tu fais pas un film ailleurs? Et moi, et j'en ai eu, mais certaines je refuse, des commandes, des films comme ça proposés. Je vois pas de raison de partir, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées aussi. J'ai trouvé une façon de produire où je suis plus libre. J'ai pas besoin de producteur, j'ai pas besoin d'argent presque, et ça grâce aussi à la vidéo, parce que je tourne en vidéo maintenant, même si à la fin je passe la vidéo en film 35 pour le montrer en salle. Et donc sans producteur, sans presque argent, parce que l'argent ça sert à... ça s'est racheté un peu les cassettes et les trois petites choses dont on a besoin, mais qui ont vraiment très très peu, un miroir, ou parce qu'on le fait sans maquillage, sans décor, sans costume, on ne dépense pas ça. Il y a les salaires. À des cas, par exemple, dans La Chambre de Vanda, c'est un film fait presque... C'est presque Vanda là, qui est la productrice du film, parce que c'est elle qui achetait parfois des cassettes, c'est elle qui faisait la soupe. Et donc c'était un film fait avec rien. Or, je pourrais pas le faire ailleurs. Je pourrais pas le faire avec des acteurs, parce que je peux pas payer des acteurs. Les techniciens, voilà, je pense même pas à ça, parce que un chef op, un chef son... S'ils sont un peu connus ou répétés, jamais, parce qu'ils sont chers. Certains trouvent que c'est trop chiant. 4 mois ou 5 mois, toujours la même chose. Et c'est la preuve pour moi, avec le travail que je fais maintenant. Parce que Vanda, c'est 2 ans de tournage. Ce film-là, c'est 2 ans encore.
Donc vous avez genre 200, 300 heures de rush, enfin, je suppose.
Oui, oui, mais ça, c'est pas important. Mmh. Ça, c'est ce qu'on a... Enfin, un type qui fait des chaussures, il fait 300 paires de chaussures. Enfin, il est là pour faire ça tous les jours. C'est propre d'un travail d'être chiant, parfois. Pourquoi pas, même le cinéma, il faut que ça passe par ça. Il y a des moments très chiants de répétition, de juste affiner quelque chose, une position de caméra, quelque chose qui a à voir avec le son, la lumière ou un acteur. Parfois, c'est aussi chiant qu'être en usine ou au bureau, malheureusement.
Et justement, comment s'est passée cette transition de Ossos, où il y a la grosse machinerie du cinéma classique, enfin, je suppose un tournage, avec La Chambre de Vanda, où le dispositif est beaucoup plus léger. Donc là, vous passez avec vous êtes une toute petite équipe ou vous êtes seule? Comment ça se passe? Enfin, vous filmez avec une caméra vidéo?
Ça dépend des films. Et La Chambre de Vanda, j'étais à la fois complètement seule, et j'ai fait caméra et presque le son aussi, mais souvent avec un copain qui faisait le son. Et dans un moment final, j'avais un autre copain qui m'aidait pour un peu de lumière ou un peu de son, enfin qui faisait un peu de tout, donc on était 3, plus les acteurs ou les gens qu'on filmait. Pour En Avant Jeunesse, on était plus, on était 4. Au SOS, on avait, je sais pas, 35, 40 personnes et des camions et tout ça. C'était un tournage complètement classique.
Vous dites justement que vous n'êtes pas à l'aise avec ce dispositif-là. Comment vous êtes passé dans un dispositif plus simple?
Je suis pas à l'aise parce que, comme je vous dis, c'est que je pense qu'on fait plus qu'on... Sur un tournage, c'est très difficile. Moi, j'ai besoin de temps pour travailler. Et ça, c'est une chose dont très peu de réalisateurs, et je parle que de réalisateurs, parce que des peintres, des musiciens, des gens, peut-être des gens de théâtre, ont les mêmes contraintes un peu. Mais jamais. Un peintre, il ne fait pas en 2 semaines, enfin, il ne fait pas en 4 jours, il fait ce qu'il fait, et c'est tout ce qu'on... Le cinéma, cette chose-là de production, d'argent, de ces contraintes-là de temps, parce qu'on dit que c'est très cher qu'il faut faire, parce qu'il y a des montagnes d'argent. Tout ça, c'est un peu faux, évidemment, parce qu'on peut faire beaucoup moins cher. Parce que c'est payer les acteurs et les techniciens et les hôtels et les avions et certaines choses. C'est ça qui est cher. Et là, on dépense vraiment des fortunes. Donc, un tournage normal, c'est un peu ça. C'est dépenser beaucoup d'argent, ne pas avoir le temps pour travailler, pour penser, pour essayer des choses, pour ne pas réussir des choses, pour ne pas réussir et chercher encore. Donc voilà, je me sentais mal parce que j'ai besoin de temps. Renoir disait « tous mes films américains sont mauvais » parce que j'ai pas eu le temps que dont j'ai besoin. Enfin, mes films, la règle du jeu ou l'Inde, je faisais comme je voulais, plus ou moins, parce qu'on n'est pas complètement libre. Mais là, en Amérique, non, tout est mauvais, tout ce que j'ai fait, parce qu'on me donnait pas le temps. Donc, faut essayer de trouver une façon où on soit plus ou moins heureux dans le métier qu'on a choisi. Donc.
Mais vous avez quand même une conception du cinéma comme, dites-moi si je me trompe, mais comme un travail, c'est-à-dire on va au travail tous les jours.
Oui, oui, mais moi, oui, c'est mon, disons, c'est bizarre, c'est ma bizarrerie, j'aime voir ça comme un travail. Mmh. Le cinéma comme un travail, pas comme, on va pas là au bord de la mer faire des plans, filmer. On va travailler, disons. Et donc, si on va travailler, c'est une autre chose. Il faut. Vous voyez, je travaille, c'est le contact que j'ai avec des gens comme Ventura ou des gens avec, voilà, qui ne sont pas acteurs, qui n'ont pas eu de rapport avec le cinéma avant moi. Enfin, et n'auront jamais un rapport direct au cinéma. Ils le connaissent à travers moi. Donc moi, j'étais un peu handicapé, si vous voulez, à côté d'eux, parce qu'eux, ils travaillaient. Ventura, c'était un maçon. Toutes les femmes sont femmes de ménage, c'est très dur comme métier, femmes de ménage. On se lève à 6 heures du matin, on prend des bus, des trains, on va très loin, c'est très dur, on a mal au dos, c'est parfois des femmes déjà âgées. Et les hommes, c'est des maçons, c'est aussi très dur. Et c'est des métiers qui ne permettent, qui ne laissent pas de marge à des états d'âme ou des choses comme ça, comme nous on a. Donc moi j'étais vraiment handicapé à côté de ces gens. Et donc la seule chose que je pouvais faire, c'est essayer de les montrer un peu que le cinéma, ou du moins le cinéma auquel je crois, celui que j'ai connu, enfin, par les films, vraiment, par les réalisateurs classiques, c'est un travail qui se fait tous les jours, qui est aussi très dur et très chiant, très physique aussi, qui se fait de 8h à 7h du soir, mais tous les jours et avec discipline, et qui devait se faire tous les jours, oui. Enfin, évidemment, ça dépend encore des idées qu'on a sur le, je dirais même l'art. Enfin, moi, je crois pas trop à, quand on fait un film, on fait pas de l'art. On essaie de faire. Ça viendra si ça vient. On fait. Moi, je me dis, si le film n'est pas très réussi, il sera au moins un document sur quelque chose.
Justement, enfin, vous dites, je ne fais pas de cinéma, je fais autre chose. Je fais une sorte de document.
Oui, oui, non, je pars avec l'idée que si ça donne pas un film, ça donnera quelque chose sur là où on est. Mais on a quand même l'ambition toujours de faire un film, et l'ambition, je peux vous dire, et c'est pas seulement moi, c'est des acteurs ou même des 3 techniciens, enfin des collègues qui sont avec moi, c'est des Great Expectations, comme disait Dickens. C'est vraiment, on attend beaucoup. Et on attend beaucoup de tout. C'est pas nous-mêmes, c'est nous, c'est eux, c'est, on attend beaucoup à un certain moment. Mais je pense qu'on ne va pas au tournage lundi pour faire de l'art. Et lundi, il faut qu'on la fasse lundi, comme sur un film. Parce que mardi, on a d'autres scènes, donc encore de l'art, mais un art différent, parce que là, c'est la scène d'amour, et après, on n'a pas ces contraintes-là. On est toujours en attente de quelque chose, et on peut l'attendre. Si elle vient, elle viendra. Si elle ne vient pas, On passe à autre chose, on répète, on continue à travailler. Donc on est toujours entre le... Oui, il y a un côté documentaire. Et ça va donner peut-être plus tard autre chose.
Mmh. Justement, dans Osso, ça faisait penser à une sorte de fiction documentaire. Mmh. Dans La Chambre de Vanda, ça a la forme d'un documentaire, mais ça, donc voilà, qui comporte ni scénario, ni acteur professionnel. Mais ça n'est pas non plus vraiment un documentaire. Parce qu'il y a des scènes qui sont retravaillées, il y a des mots qui sont retirés, des mots qui sont ajoutés, c'est ça ? Est-ce que... Je ne sais pas, est-ce que Vanda serait l'origine documentaire qui permet justement la fiction d'En avant jeunesse ?
C'est bien pensé. C'est comme si elle m'avait dit, et c'est ce qu'elle m'a dit, je crois, après Osos, puisqu'elle jouait dans Osos un peu. Et je pense que... Mais c'est peut-être là la fiction, c'est cette fiction que je me fais dans ma tête, c'est elle qui m'a invité dans sa chambre, enfin dans son quartier, sa chambre, sa vie. Comme si elle disait, faut faire un autre genre de choses, plus, je sais pas, plus léger, moins, avec moins de machinerie, avec moins de bruit et de fureur et tout ça, faire quelque chose de plus discret. Donc viens dans cette chambre, dans ce autre pays, de ce quartier. Donc on ne peut faire que des documentaires, donc être en face de Vanda, qu'avec un énorme désir de fiction aussi. Et voilà, c'est ce qu'a la chambre de Vanda, c'est un peu ça. On a répété beaucoup de choses. Il n'y a pas dans le film des scènes improvisées tellement comme ça. Aussi des maisons qui tombent, parce qu'on voit des maisons qui tombent, qui sont rasées par des machines. Ça, un peu. Et même ça, je connaissais très bien les gens qui conduisaient les bulldozers. Et donc, le matin, on se saluait, j'arrivais, ils arrivaient. Bonjour, bonjour, moi je vais de ce côté-là. Et je vais travailler, raser des maisons par là, donc je serai là, c'est quand vous voulez.
D'accord,
et parfois, je venais, je disais, arrêtez-vous, ils s'arrêtaient, ils se mettaient de profil, et alors, maintenant, raser. C'est un côté très pervers aussi. Mais même ça, je pouvais contrôler. Vous voyez. Donc, il n'y a pas vraiment de... documentaire pur, tout était mis en scène.
Dans les autres films aussi, on est toujours entre les deux.
On est toujours plus dans le... Disons qu'on est toujours... Moi, je préfère dire je suis toujours dans un réalisme, disons, un réalisme. Ça, je veux être là. Et un réalisme se fait pas seulement des... Ça, on met tout dans le réalisme, on met la façon de travailler, la façon dont on dépense l'argent, quelle caméra on a, quel micro, tout ça, ça fait partie de ce que j'appelle réalisme. Enfin. Et je sais très bien si je dépasse une chose, une porte, ou un seuil, ou une frontière de ce que j'appelle vaguement le réalisme, je vais me perdre et le film va se perdre. C'est-à-dire, si j'ai trop de gens, ou une machine trop sophistiquée ou qui est pas bonne pour filmer là où je filme, parce que là, je pense qu'on est à égalité, moyens, gens, argent, tout ça. On a réussi un équilibre qui passe dans les films, je pense. Sûrement quelque chose passe de nous au quartier, du quartier beaucoup dans la caméra, vers nous.
Merci beaucoup.
Merci.
C'était Passeur de réel, Pedro Costa. Libertad, grita, pobre libertad. Merci à Pedro Costa, Jacques Rancière, Dominique Auvray et Henri Minkoff. Merci à Viviana Andriani et à Henri Minkoff pour les archives sonores. Prise de son, Emmanuel Dupuis et Olivier Berotte. Mixage, Marie Le Peintre. Une émission de Johanna Bedeau et Diffy Mariani.
L'heure du documentaire, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, liens et podcasts pour le festival de Lussas, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook à la page France Culture Documentaire. Et demain, deuxième épisode, un portrait de Jean-Xavier de l'Estrade.